Vous savez que chaque année, la journée du 4 avril, autrement dit aujourd'hui, est consacrée à la journée internationale des mines antipersonnelles, une occasion de sensibiliser la population sur les dangers des mines. Il faut savoir que selon le Centre de coordination de la lutte anti-mines des Nations Unies, chaque année, les mines tuent quelques 20 000 personnes dans le monde, dont 3 à 4 000 enfants. En République démocratique du Congo, pour cette année, qu'est-ce qui est prévu? Nous allons parler dans un instant avec nos invités. Nous avons dans ce studio M. Haruna Ouidraogo, directeur de programme de la lutte anti-mine personnelle du Centre de coordination de la lutte anti-mine des Nations Unies. Nous aurons également dans un instant, il sera en ligne, M. Papa Wemba. Il est ambassadeur contre les mines antipersonnelles en République démocratique du Congo. Vous souhaitez réagir? Vous êtes les bienvenus au 081 890 63. 94, il faut nous appeler et ne pas nous biper, auditeur de Radio Capi. Nous avons déjà M. Haruna Ouidraogo, vous êtes là avec nous pour nous éclairer sur cette question concernant la journée internationale de lutte anti-mine. Alors, bon nombre de gens aujourd'hui aimeraient savoir qu'est-ce qui est prévu pour cette année en République démocratique du Congo.
Bonjour et merci de l'occasion que vous nous donnez donc de parler de cette journée internationale de lutte contre les mines antipersonnelles. À la République démocratique du Congo, comme de par le monde et de par particulièrement les pays touchés par le conflit, il faut dire qu'il y a une cérémonie qui est prévue à cet effet, et cette cérémonie est prévue à Kinshasa, mais d'autres cérémonies auront lieu également dans le reste du pays, particulièrement dans les zones ou dans les villes où il y a des opérateurs en déminage. Mmh. Je veux parler des villes comme Bunia, je veux parler des villes comme Kalemi, comme Kipangani et des villes comme Lubumbashi. Il y aura donc des activités qui vont commémorer cette journée.
Oui, des activités, mais si on doit faire un état des lieux, des mines ici en RDC, quelles sont les provinces qu'il faudrait cibler? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet?
J'ai envie de dire que tout le Congo pratiquement est ciblé, mais à des degrés divers, bien sûr. Je pense que les plus touchés, sans me tromper, sont essentiellement des provinces comme celle du Katanga, des provinces comme celle du Sud ou Nord Kivu, des provinces comme celle du Maniema, de l'Équateur, ou encore la province orientale. Ce qui s'explique, si vous regardez un peu la géographie du pays, par simplement le fait que ce sont les zones où il y a eu essentiellement des grands combats lors des conflits donc, qui ont opposé les différents belligérants dans ce pays lors de la dernière guerre.
Mmh. Nous irons d'ailleurs tout à l'heure dans la ville de Kalemi pour faire le point avec notre confrère, parce que nous apprenons que là-bas, les problèmes des mines aussi sont réels. Mais nous savons que pour le déminage, ça coûte énormément cher. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça évolue bien de ce côté-là?
De ce côté, ça évolue beaucoup et je voudrais pour profiter de cette occasion pour rectifier d'ailleurs un des chiffres que vous avez donné tout à l'heure. Vous avez parlé de 20 000 morts par année. C'est exact, c'était le cas il y a quelques années parce que la lutte n'avait pas pris une certaine ampleur. Mais grâce à l'aide qui a été apportée depuis lors et au concours de la communauté internationale, ainsi qu'à tous les efforts qui sont entrepris, il y a eu beaucoup d'avancées significatives et actuellement nous parlons en 2007 par exemple que nous avons enregistré quelque chose comme 6 000 morts. Alors, ce qui est significatif par rapport au nombre de 20 000 il y a quelques années, il y a 2-3 ans.
Donc,
encore,
ce nombre a doublé.
Ce nombre a pratiquement diminué pratiquement. De 20 000, nous sommes passés à 6 000 victimes par année. Donc, ça veut dire qu'il y a une diminution très sensible. Et cela, c'est grâce au concours, donc, à cette aide qui a été apportée. Et c'est l'objet, d'ailleurs, du thème de cette journée. Parce que la journée s'intitule, en fait, journée de sensibilisation au danger des mines antipersonnelles et de l'assistance à la lutte anti-mine.
Mm-hmm. Parlons de sensibilisation. Est-ce que la sensibilisation réellement avance? Ça donne vraiment de l'impact?
Beaucoup, beaucoup, parce que la sensibilisation, c'est cette sensibilisation qui a permis de diminuer le nombre de victimes. C'est vrai que c'est par l'enlèvement des mines et des engins non explosés qu'on arrive à diminuer le nombre de victimes, mais comme vous l'avez dit, cet enlèvement, ces destructions de mines, ces enlèvements d'uxos, comme nous les appelons, c'est-à-dire les engins non explosés, reviennent excessivement chers, et comme vous le savez également, ce sont généralement dans les pays les plus pauvres que ce phénomène agit le plus. Mmh. Donc, c'est par le biais de la sensibilisation que nous sommes arrivés à la réduction de ce nombre de
victimes. Uniquement par la sensibilisation.
Pas uniquement par la sensibilisation, je dis par également l'enlèvement de ces mines. Mais comme l'enlèvement de ces mines coûte cher,
oui,
c'est beaucoup plus la sensibilisation qui a produit ces effets pour arriver à la diminution de ces chiffres.
Mmh.
À titre d'exemple, la République démocratique du Congo, depuis que nous avons commencé la lutte, il y a près d'un million de personnes qui ont été sensibilisées dans les zones affectées, et cela constitue un chiffre qui n'est pas négligeable, cela constitue un chiffre qui a certainement contribué à diminuer le nombre d'accidents en République démocratique du Congo.
Oui, ce serait peut-être difficile à donner, hein, les chiffres, mais si on doit parler en termes de chiffres, on peut avoir une idée sur le nombre des mines qu'on a déjà eu
à détruire à ce moment, à ce jour.
Oui.
Nous avons des chiffres, nous avons ce que nous appelons une base de données, une base internationale, qui est un standard international, la base INSMA, International Management for System for Mine Action, système de management pour la gestion de la lutte anti-mine. Et dans cette base de données, nous enregistrons systématiquement tout ce qui a été détruit, tout ce qui a eu comme victime, tout ce qui a eu comme mètre carré de dépollué. Alors, à ce chiffre, donc, pour revenir à votre question, pouvons dire que il y a eu plus de 3000 mines qui ont été détruites actuellement au Congo depuis que nous avons commencé les opérations. Et cela, pas uniquement par le biais du centre de lutte anti-mine, parce que le centre de lutte anti-mine ne fait que coordonner les activités, mais c'est surtout grâce aux activités des opérateurs économiques que constituent des ONG internationales comme Handicap International, comme Dan Church Aid, DCA, comme également MAG, Mine Adversary Group. Et c'est le lieu pour moi ici de les remercier, mais aussi, et c'est très important, je tiens à le souligner, par le concours d'une compagnie privée qui a été contractée par la MONUC pour ses besoins, mais qui également contribue au déménage humanitaire au profit des populations. C'est la compagnie sud-africaine Mekem qui est basée en Ituri et qui contribue grandement
juste une précision. Ces mines ont été surtout détruites où exactement? Dans quelle partie de la RDC?
Dans les parties que je viens de vous citer pour la plupart. Essentiellement au Katanga, beaucoup dans le district du Tanganyika, mais aussi dans la province de l'Équateur, en Mbandaka, comme vous le savez tout récemment, il y avait un important stock d'explosifs qui menaçait la ville, qui menaçait la vie des populations et qui a été détruit grâce au concours de l'ONG MAG.
Mm.
Comme je l'ai dit, encore une fois, ces mines ont été détruites dans les provinces touchées, mais ce ne sont pas des mines qui ont été détruites parce qu'elles étaient enfouies dans le sol, mais il y a beaucoup aussi qui ont été détruites parce qu'elles constituaient des stocks que nous avons découverts, des stocks qui ont été portés à notre attention par soit les populations, soit les autorités.
Donc il y en a encore beaucoup aujourd'hui enfouis dans le sol qu'on ne peut pas localiser.
Il y en a certainement, il y en a d'enfouis dans le sol, il y en a dans les stocks, et tout cela constitue encore des problèmes parce que la Convention d'Ottawa, qui est la convention de base pour l'interdiction des mines antipersonnelles, stipule que nous devons détruire toutes les mines, tous les stocks de mines, c'est l'un des piliers de la Convention d'Ottawa.
Haruna Ouedraogo, parce que vous faites allusion à cette convention, en novembre 2004, à Nairobi, un plan d'action a été adopté visant d'une part à universaliser la convention d'Ottawa à l'horizon 2009 et d'autre part à obtenir une plus grande implication des pays signataires afin de sécuriser totalement les zones à risque. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, nous sommes en 2008, donc il reste une année, la RDC sera réellement au rendez-vous pour sécuriser les zones?
Le rendez-vous de la RDC, ce n'est pas l'année prochaine. La RDC a ratifié la convention en 2002, donc la RDC a 10 ans encore, comme le stipule la convention d'Ottawa, pour se débarrasser de ces mines. Et si nous calculons, donc cela nous donne 2012, il nous reste encore des années. Ce n'est pas évident que cela puisse être le cas, mais dans la convention également, il est prévu qu'en cas d'impossibilité, et qui s'explique par d'impossibilité voulue, en cas d'impossibilité qui s'explique, l'État parti peut demander une prolongation donc pour ces délais. Et nous pensons que à l'horizon 2012, beaucoup de choses auront été faites, particulièrement en ce qui concerne les destructions des stocks que la RDC a en termes de mines antipersonnelles.
Oui, parce que vous avez parlé de la sensibilisation. En quoi elle consiste-t-elle?
La sensibilisation au danger des mines, c'est comme la sensibilisation au VIH-SIDA. Je donne souvent cet exemple parce que c'est ce qui est très connu. C'est simplement apprendre aux gens qui vivent dans les zones affectées à se comporter de telle manière à éviter les dangers. C'était apprendre aux gens qui vivent dans ces zones affectées à vivre avec ce danger sans en être victime. Voilà,
et le volet assistance, comment ça se passe concrètement, assistance?
À l'assistance à la lutte ou l'assistance aux victimes? Allez, il y a deux volets. L'assistance aux victimes, c'est d'abord, un, leur apporter les soins lorsqu'ils ont été victimes, parce que vous savez que victime d'une mine, vous perdez soit un membre, ou en tout cas, vous subissez un traumatisme grave au niveau du corps. Donc, c'est d'abord, un, apporter les soins adéquats. Deuxièmement, c'est aider cette victime, après les soins, à se réinsérer dans sa société, parce que comme vous le savez, et particulièrement en Afrique, lorsque vous devenez un infirme, lorsque vous devenez un handicapé, vous devenez une sous-personne. Et donc, vous devenez quelqu'un qui, si vous voulez, doit avoir une certaine aide pour pouvoir moralement se retrouver.
Et vous le faites, disons, partout en République démocratique du Congo, surtout la partie la plus touchée, vous prenez en charge ces victimes?
Pas encore. C'est un des volets qui n'a pas encore assez de financement, mais nous pensons que, parce qu'il y a beaucoup à faire en termes de lutte anti-mine, et il y a des priorités forcément à opérer. Et donc, l'assistance aux victimes constitue pour l'heure un des volets sur lesquels nous devons mettre l'accent et sur lesquels nous travaillons à mettre beaucoup l'accent. Du reste, cela me donne l'occasion de signaler que des organisations comme le CICR font du travail très important, un travail remarquable en la matière, et cela n'est pas négligeable.
Oui, parce que on a parlé de l'opération des minages à Kinshasa à une certaine époque. Disons, je ne sais pas, est-ce que la situation a évolué ou peut-être il y a encore quelque chose qui reste à faire à Kinshasa?
Alors, merci encore, parce que tout à l'heure, lorsqu'on parlait de provinces touchées, je n'ai pas parlé de Kinshasa, j'ai dit que presque tout le Congo était touché. Et
vous avez lancé l'opération.
Absolument, grâce au concours des contingents de la MONUC, grâce au concours de la compagnie Mekem contractée par la MONUC, nous avons lancé une opération suite aux événements de mars qui avaient produit beaucoup d'engins non exposés à Kinshasa, qui menaçaient des vies de populations dans des écoles, dans des maisons privées, dans des champs.
Quelle est la situation aujourd'hui?
Comme je le disais tout à l'heure, avec le concours de ces contingents militaires de la MONUC et avec le concours de cette compagnie privée, nous avons réussi à nous débarrasser de presque la totalité de tout ce qui nous a été, tout ce qui a été porté à notre connaissance comme engin non explosif se trouvant à Kinshasa.
Il n'y a plus d'inquiétude, plus de soucis pour l'équipe.
À notre connaissance, sauf ce que nous n'avons pas eu comme élément d'information.
Alors finalement, l'objectif d'un monde sans mine peut être atteint en quelques années? C'est très possible.
Et ça a été l'objet du premier message du secrétaire général, je me rappelle d'ailleurs, lors de la célébration de la première journée en 2006. Le secrétaire général disait que avec les éléments que nous avons actuellement, donc dans les bases de données, avec les éléments que nous avons actuellement par rapport à l'assistance qui est apportée en termes de lutte anti-mine, il est possible de se débarrasser de ce fléau en quelques années. Contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques années, on était convaincu qu'il fallait des dizaines et des dizaines d'années, mais le secrétaire général l'a dit et l'a répété, il est possible, particulièrement peut-être pas dans tous les pays affectés, mais dans beaucoup de pays affectés, il est possible actuellement de se débarrasser de ce fléau en quelques années.
Comment? Pourquoi?
Parce qu'il y a plus d'efforts qui sont faits par les donateurs, parce qu'il y a plus d'opérateurs qui s'impliquent davantage, parce que les populations deviennent de plus en plus conscientes et parce que de moins en moins, grâce au traité d'Ottawa, il y a des mines qui sont plantées.
On revient à vous dans un instant, hein, Monsieur Aruna Ouidraogo. Juste le temps de suivre Marion Gavo, qui est le chargé de programme de la synergie pour la lutte anti-mine, SILAM, il est à Goma. On va le suivre.
Nous faisons les plaidoyers sur les dangers liés aux mines auprès des autorités politico-administratives et militaires de la province du Nord Kivu. En deuxième position, nous faisons le renforcement des capacités des activités de lutte anti-mine et cela passe par nos animateurs propres disséminés dans tous les territoires de la province du Nord Kivu. Troisième position, nous faisons l'éducation au risque des mines. Ça veut dire les comportements que la population doit avoir en face des dangers liés aux mines et autres engins non explosés. Nous faisons les enquêtes sur les victimes des mines et les zones dangereuses supposées et suspectes. Et après ces enquêtes, s'il y a des engins visibles tels que les mines, les roquettes, les mortiers, nous faisons ce que nous appelons la cartographie, et cela selon les normes internationales de la lutte anti-mine.
Voilà, donc ça c'est le travail que fait SILAM hein, dans la lutte anti-mine, hein, le travail de la synergie, mais ça ne se limite pas là, hein, le travail de la synergie. Ils ont même eu à faire des statistiques, hein, des mines déminées. Je vous invite encore une fois à suivre son point de vue à ce sujet.
Les statistiques des mines, vous savez, les mines sont toujours disséminées, on ne sait pas les compter partout où elles se trouvent, mais nous avons les statistiques des mines que nous avons eues à marquer et certaines à faire déminer. Nous avons déjà orienté les démineurs à 4 mines déjà dépolluées, ça veut dire détruites. Nous avons eu à recenser depuis 2003 52 zones dangereuses. Ça veut dire contenant soit des mines, soit des substances que nous appelons les résidus explosifs de guerre ou encore des restes de guerre, 52 zones. Et dans ces 52 zones, les institutions internationales qui travaillent dans les déminages ont essayé à dépolluer 18 zones dangereuses, et cela dans les territoires de Walikale et dans les territoires de Beni.
Voilà, donc il reste encore beaucoup à faire. Hein. Vous avez suivi tout à l'heure Monsieur Marion Gaveau qui nous a dit que dans le territoire de Walikale et Beni, il faut encore travailler, il faut encore déminer. Hein.
Absolument. Et pas seulement dans ce territoire, mais dans beaucoup d'autres territoires, dans beaucoup d'autres districts, dans beaucoup d'autres provinces, il reste encore du travail. Mais nous sommes confiants parce que de plus en plus, il y a de l'engagement, comme je l'ai dit, pour aider à lutter contre ce fléau en République démocratique du Congo. C'est le lieu également pour moi d'ailleurs de saluer les bailleurs de fonds. Je ne vais pas les citer pour ne pas en oublier, mais il y a beaucoup de pays qui contribuent grandement depuis un certain nombre d'années à aider la République démocratique du Congo à sortir de ce fléau.
Et ça peut coûter combien finalement pour arriver à déminer toute la RDC? Jusque-là, on a dépensé combien?
Jusque-là, nous avons dépensé des dizaines de millions de dollars. C'est pas négligeable, mais il faut encore davantage.
Il faut encore davantage, je vous disais.
Il faut encore davantage. Nous sommes confiants parce que de plus en plus, il y a des pays qui s'intéressent, des donateurs qui s'intéressent à la question et donc qui mettent la main à la poche.
Oui, une question de curiosité, parce qu'on sait que le travail humain est toujours entaché de parfois de certaines imperfections. Et quelle est la vraie problématique du déminage en République démocratique du Congo?
La vraie problématique du déminage en République démocratique du Congo, c'est que le Congo est un pays très vaste. Le Congo est un pays qui a été beaucoup touché par le phénomène des conflits, notamment sur le plan des infrastructures. Et donc, il faut absolument beaucoup de moyens parce que, sur le plan logistique, il y a des difficultés à déplacer les équipes de déminage et donc cela ne permet pas de conduire beaucoup d'opérations. Il y a également que, jusque-là, contrairement à ce qui se passe dans les schémas classiques de déminage, compte tenu de la taille du pays, compte tenu de l'insécurité qui règne dans certaines zones, nous n'avons pas été à même encore d'avoir une idée exacte et précise de la situation.
Mais les démineurs sont très bien formés.
Les démineurs sont très bien formés, très bien outillés, très bien formés et conduisent du très bon travail. Je peux vous l'assurer.
Des incidents majeurs ou mineurs?
Des incidents, oui, mais très peu. Très peu. Nous avons connu depuis 2002 deux incidents, ce qui est très négligeable en termes de déminage, ce qui est très significatif comme sécurité apportée au niveau du déminage. Et donc, je peux dire qu'il y a beaucoup de sécurité à ce niveau.
Alors, conclusion, aujourd'hui, ça évolue plutôt bien côté déminage, de même que sur le plan de la sensibilisation, ce qui reste à faire, c'est la prise en charge maintenant des victimes.
Absolument, je suis parfaitement d'avis avec vous et c'est l'un des volets sur lesquels nous devons mettre l'accent et sur lesquels nous voulons mettre l'accent. Je voudrais annoncer que cette année même, au niveau du centre de lutte anti-mine des Nations Unies, nous allons procéder au recrutement d'un Congolais qui sera qui aura en charge justement ce volet lutte à assistance aux victimes des mines pour nous assurer que nous allons nous attaquer résolument à ce problème.
Monsieur Ouédraogo, on va s'arrêter là. Nous vous remercions beaucoup d'avoir été des nôtres. Alors, on a Ouédraogo. Nous rappelons que vous êtes directeur du programme de la lutte anti-mine personnel du Centre de coordination de la lutte anti-mine des Nations Unies. Nous allons rester sur le cap anti-mine aujourd'hui en RDC dans cette émission, puisque dans un instant, nous allons recevoir M. Papa Wimba, qui est ambassadeur contre les mines anti-personnel en République démocratique du Congo. Donc, continuez à rester des nôtres, dites-leur dans
votre pays. Absolument. Et je voudrais profiter de votre micro pour vous dire bonjour à Papa Wemba, donc, qui est ambassadeur, comme vous l'avez dit, donc, qui contribue à mener la lutte anti-mine en République démocratique du Congo.
Voilà, juste le temps pour nous d'écouter une chanson de Papa Wemba d'ailleurs à cette occasion, et on poursuit avec Papa Wemba.
Mira te te lo colo prima
que la Croix-Rouge justement a eu à composer en collaboration avec certains musiciens, notamment M. Shungu Wembadio, mieux connu sous le nom de Papa Wemba, qui reste avec nous à l'occasion de la journée consacrée à la lutte anti-mine ici au Congo. Nous avons M. Shungu Wembadio en ligne. Papa Wemba, bonjour.
Bonjour, Radio Okapi.
Alors, vous êtes un ambassadeur contre les mines antipersonnelles en République démocratique du Congo. Vous savez qu'aujourd'hui, nous célébrons cette journée consacrée à la lutte anti-mine personnelle du centre, célébrée à l'occasion de la journée des mines. Alors, aujourd'hui, on aimerait savoir, parce qu'il y a bon nombre de gens qui s'interrogent sur ce que vous faites en tant qu'ambassadeur des mines antipersonnelles en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous faites exactement, Papa Wemba?
Bon, en fait, il y a deux ans passés, j'ai été nommé comme ambassadeur antipersonnel, contre les mines antipersonnelles, par une organisation non gouvernementale en sigle qui s'appelle MAG. Effectivement, je n'avais eu que mon cahier de charge pour une seule année seulement. Alors l'année dernière, on devait effectuer des visites un peu partout dans des villes qui avaient connu la situation de guerre. Et malheureusement, avec MAG, on s'était pas mis d'accord. Alors aujourd'hui, bon, je reste entre parenthèses comme étant toujours l'ambassadeur contre les lignes antipersonnelles, quoi.
Tout à l'heure, on a écouté une chanson, Sauvaille, que vous avez interprétée avec d'autres musiciens africains, hein, et d'ailleurs, qui se sont aussi engagés dans la lutte contre les mines. Nous avons à savoir, Papa Wemba, cette chanson, qu'est-ce que ça vous a rapporté exactement? Qu'est-ce que vous avez pu faire, hein, pour lutter contre les mines, justement?
Avant de répondre à votre question, je souligne la croissance, je dis que 40 années passées déjà, on avait assassiné Martin Luther King, et qu'aujourd'hui, toute l'Amérique pleure le pasteur Martin Luther King, dont on essaie de le qualifier comme Obama, qui est en train de poursuivre aussi son combat, quoi, pour que l'Amérique devienne vraiment une Amérique unie, quoi. Bon, avec Sauvaille, je crois que c'est grâce à la CICE, nous avons pu effectuer des visites dans des villes qui avaient connu la guerre et que nous avons essayé d'entrer en contact avec la population qui avait vraiment participé et qui avait connu aussi la guerre, quoi. Alors, heureusement, la CICE avait mis beaucoup de moyens, et par la suite, nous avons pu enfanter cette chanson que vous avez fait auditionner
à nos auditeurs.
Aux auditeurs. Aux auditeurs de la radio Capi, quoi.
Donc c'était plus loin.
Je crois que c'était une bonne démarche de la CICR. Il faudra que d'autres organisations aussi s'impliquent dans ce sens-là.
Donc vous êtes allé un peu partout dans le monde pour sensibiliser les gens à travers la musique?
À travers la musique et à travers, puisque bon, nous sommes, qui dirait, un peu des avant-gardistes, quoi. Dans des pays comme Monrovia, qui ne connaissait pas du tout la musique congolaise, mais quand nous sommes arrivés, on était chaque fois pointé du doigt, ah non, c'est pas Papa Wemba, c'est Youssoundoura. Donc, on était bien pour nous, quoi.
Et aujourd'hui, est-ce que vous continuez à collaborer avec le CICR?
Malheureusement, non. C'était un mandat qui n'avait que pour 3 années, et c'était terminé, quoi. Je crois qu'il y en a d'autres qui ont pris la relève.
Sungu Imadio, vous êtes mieux connu sous le nom de Papa Wemba. Vous êtes ambassadeur contre les mines antipersonnelles en RDC. Vous avez suivi Ouedraogo Arunda, directeur de programme de la lutte anti-mine personnelle du Centre de coordination de la lutte anti-mine des Nations Unies, qui nous a laissé entendre qu'il reste encore beaucoup à faire dans cette lutte. Si jamais la population pouvait attendre quelque chose de vous, quelle sera votre contribution pour que, disons, dans les jours à venir, qu'on puisse réellement atteindre l'objectif poursuivi?
Mais c'est vrai que personnellement, je suis un peu démuni de beaucoup de choses, mais juste ma présence peut aussi réagir à la population, quoi. Et comme fut le cas dans la ville de Mbandaka, parce que la ville de Mbandaka ne m'attendait pas, et quand ils m'ont vu, donc toutes les personnes qui m'ont vu ont accouru pour venir écouter le message que je leur avais apporté, quoi.
Oui, si vous étiez demandé, d'annoncer peut-être une démarche personnelle, parce que vous avez signalé que vous avez eu quelques petits soucis avec MAG, mais aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur contre les mines, est-ce que vous voulez annoncer une démarche personnelle, c'est-à-dire faire une tournée à travers le pays pour sensibiliser la population autour de cette question?
C'est vrai que je peux amorcer tout ça comme ça, mais il me faut beaucoup de moyens, parce que je ne peux pas m'engager seul comme ça. C'est quand même un travail assez costaud, quoi. Donc je ne peux pas m'engager comme ça seul, de sauter de l'avion en avion, de parcourir les villes comme ça. Il me faut vraiment une organisation costaud derrière moi.
Oui, oui, ben, donc j'aimerais peut-être avoir une précision, parce qu'on a vu, quand il s'agissait de lutter contre la faim, la famine en Afrique, ou la faim, disons, les musiciens, les artistes américains se sont retrouvés ensemble et ils ont, disons, fait une chanson donc, autour de cette question. Est-ce que ça ne peut pas être fait également par vous, c'est-à-dire initier quelque chose comme ça avec des musiciens congolais et faire, disons, sortir un tube pour réellement sensibiliser cette population?
C'est facile de dire comme ça qu'on peut, mais seulement ça reste maintenant chacun de nous, si chacun de nous maintenant est concerné. Il y en a d'autres qui vont dire, bon voilà, moi je vais vous chanter, mais vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Donc là ça dépend de l'homme, de la démarche d'un chacun de nous, quoi.
Mm.
Mais bon, je dis que ce n'est pas exclu, hein, ce n'est pas exclu. On peut toujours en parler, on peut toujours aussi toujours aboutir à ça, quoi.
Oui. Alors, vous avez eu quand même à le faire, hein, à un certain temps, avec d'autres musiciens. Vous avez cité Yusundu, lorsque vous avez eu à composer cette chanson Sowai. Il y a d'autres musiciens qui se sont associés à vous. Et vous avez dit qu'il fallait beaucoup de moyens. À l'époque, le CICR avait donné combien de moyens pour que vous arriviez à vous mettre ensemble?
Ben, imaginez que le CICR avait mis un avion à notre disposition, quoi. Et avec cet avion, nous avons effectué des voyages un peu partout. Nous avons parcouru toute l'Afrique du Sud, nous avons parcouru toute l'Angola, nous avons parcouru le Libéria, nous avons parcouru la Somalie, et on a été aussi à la frontière du Kenya et de l'Ouganda, où il y avait un grand centre hospitalier là-bas. Donc tout ça, la CICR avait eu beaucoup de moyens.
Mmh.
Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si tu peux venir encore mettre ce genre de moyens.
Oui, parce qu'il y a des sociétés d'aviation qui peuvent vous aider, monsieur l'ambassadeur. À Kinshasa, par exemple.
Oui, absolument. Je dis
justement de faire cette démarche.
Ouais, mais il faudra qu'il y ait des gens soucieux de ces problèmes, quoi, au départ.
Mmh. Mais c'est aussi à vous de proposer, hein. Monsieur Chungo, vous m'avez dit, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre puisse avoir cette idée et puis après regretter. C'est aussi à vous de vous proposer.
Je suis complètement d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais bon, je crois qu'à l'heure actuelle où nous parlons, il y en a de ceux-là qui vous écoutent. Et je lance l'appel à tous ceux qui pourront nous aider et mettre des moyens pour essayer aussi de faire tout ce que nous avons eu. Tout ce que nous avons envie de faire.
Mmh. Oui, mais vous êtes musicien. On ne peut pas se quitter sans que vous puissiez redonner des choses qu'un homme musical. C'est pourquoi peut-être c'est bon de nous improviser quelque chose comme a cappella pour peut-être souhaiter bonne fête à ceux-là qui sont engagés dans la lutte contre le mine personnel en République démocratique du Congo et surtout penser à ceux-là qui sont victimes.
C'est vrai, j'ai toujours c'est grâce à ma voix que je suis reconnu un peu partout. Mais là, je suis sous antibiotiques parce que je souffre de la grippe. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Et que, d'ailleurs, vous entendez ma voix, elle est un peu enrouée comme ça. Et que, malheureusement, je ne peux pas fredonner à la cappella comme ça. Ça sera peut-être pour une prochaine occasion, j'ai.
Voilà, ce n'est qu'une partie remise, hein, Papa Wemba. On va se séparer une fois de plus avec Sowai, une chanson que vous avez à interpréter, hein, avec Yusundu et d'autres musiciens dont les noms nous échappent aujourd'hui, malheureusement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Allez, à la prochaine. Merci.
Merci. Bye bye.
Okay.